Bonjour, je suis Elisa Calvé et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Vous écoutez le second épisode consacré à la prise en charge des douleurs chroniques. La douleur est souvent considérée comme le symptôme d'un mal plus profond, d'une pathologie à rechercher et à soigner pour résoudre le phénomène de la douleur. Elle est aussi ce qui alerte le patient et le pousse généralement à aller consulter un médecin afin de savoir ce qui ne va pas, au-delà des douleurs qu'il éprouve. Mais lorsque celle-ci dure dans le temps, lorsqu'elle devient chronique, la préoccupation tend à se déplacer du traitement de la pathologie qui cause la douleur vers une prise en charge médicale de la douleur en tant que telle. Comment soigner les douleurs chroniques, des douleurs qui durent dans le temps et ce, souvent depuis des années? Comment soulager ou apaiser la douleur lorsqu'elle se fait rebelle au traitement et qu'il devient impossible de l'éradiquer entièrement? Ainsi, la douleur finit par faire partie intégrante de la vie de celles et ceux qui souffrent. Vivre avec des maladies chroniques reconfigure complètement l'existence, le quotidien et l'image de soi des personnes concernées. En France, il existe plusieurs centres d'évaluation et de traitement de la douleur, spécialisés dans la prise en charge pluridisciplinaire des douleurs chroniques rebelles. Ce sont des services médicaux accueillant des personnes souffrant de douleurs chroniques, au sein desquels elles ont la possibilité de bénéficier d'une évaluation de leur situation, d'être écoutées et accompagnées dans la recherche de mise en place de solutions adaptées et spécialisées. Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Hélin, vous êtes médecin algologue.
Oui, bonjour à tous.
Laura Bonneau, vous êtes infirmière.
Oui, bonjour.
Mathilde Barré, vous êtes infirmière également.
Oui, bonjour.
Et Cyril Planquois, psychologue clinicienne.
Oui, bonjour.
Vous faites tous les quatre partie de l'équipe médicale du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Purpan à Toulouse. Nous avions terminé le précédent entretien sur les spécificités des douleurs chroniques et de leur prise en charge, puisque la douleur est un phénomène complexe et multifactoriel qu'il convient de traiter dès qu'elle dure dans le temps, de façon globale et sans la décorréler du contexte singulier de la vie des personnes concernées. La caractéristique principale des douleurs chroniques, c'est qu'elles durent dans le temps. Peut-être vous pourriez développer sur la façon dont vous prenez en compte cette dimension invasive de l'expérience de la douleur chronique dans le parcours de soins des patients.
Pour la dimension invasive de l'expérience de la douleur, c'est éminemment important en fait dans mes consultations. Pour la dimension d'écoute aussi, pour expliquer la dimension potentiellement traumatogène de la douleur chronique et amener justement cette question de la reconnaissance dans leur vécu qui est... parfois certains patients sont vraiment très étonnés de ce que je leur dis et effectivement quand c'est avec les familles, ça peut avoir un impact important en fait dans la prise en compte de la souffrance de la personne, de la douleur au quotidien. Qui était difficilement reconnaissable avant. Et par ailleurs, c'est vraiment un travail de déconstruction aussi. C'est-à-dire que vraiment, d'expliquer ça, ça permet aux patients aussi de bien entendre qu'au centre douleur, on sait que c'est pas dans la tête au sens strict, que c'est pas faux en tout cas, que c'est vraiment ressenti. Et ça, c'est très important pour la reconnaissance. Mais aussi, le travail de déconstruction important à faire, c'est de bien prendre en compte, mais ce que déjà ont dit mes collègues, hein, que c'est un phénomène éminemment complexe, en fait, la douleur chronique, et que du coup, il n'y a pas de solution unique. Et c'est pour ça qu'on va jouer sur différents tableaux en même temps. Et donc, moi, je suis vraiment là pour articuler le lien entre psyché et soma, comme je disais tout à l'heure, mais aussi pour aider le patient à, bon, d'une part, à développer un espace de parole, mais à développer des ressources, voilà, donc des ressources psychiques. Et aussi de pas rester bloqué et figé dans l'idée de revenir à une vie comme avant. Et donc, on va travailler ensemble à qu'est-ce que c'est, en fait, une vie avec la douleur, comment elle peut être, quel rôle dans la société ou dans la famille on peut avoir malgré la douleur. Voilà. Et donc, c'est développer aussi un peu de l'espoir, même si c'est un mot un peu connoté un peu trop positiviste. Il y a quand même cette notion qui est très importante à développer, puisque... c'est des patients qui peuvent avoir perdu espoir dans une vie normale. Et donc là, on va vraiment développer justement l'idée que qu'est-ce que c'est une vie normale pour eux et vers quoi on peut tendre en fait. Et pour ça, on doit aussi passer par souvent un travail sur la reconnaissance des émotions. Qu'est-ce que ça vient engendrer en fait, la douleur chronique? à quel moment dans sa vie on a déjà ressenti ça. Bon, et là, on commence à faire un lien et à donner du sens sur l'histoire de vie du patient, comment elle est apparue cette douleur, etc., etc. Donc là, ça devient un travail plus complexe et plus long avec le psychologue dans le sens qu'on peut donner à cette douleur et finalement, à quel point elle peut être l'occasion aussi de redonner du sens et de changer de vie, en fait. Voilà. Vers quelque chose de différent, mais pas forcément moins bien. Voilà.
Siri, vraiment, c'est fondamental ce que tu viens d'expliquer. Moi, de mon expérience, si on ne prend pas en charge la dimension psychologique dans la douleur chronique, on fonce droit dans le mur, parce que toute cette attitude à s'adapter, toute cette attitude à accepter, et finalement à déconstruire pour reconstruire, ça peut difficilement se faire seul, parce que ça demande quand même d'avoir effectivement des ressorts de cognition qui sont pas lisibles directement, avec une vraie relecture de ce qu'on a vécu, comment ça nous a touché, pourquoi c'est difficile, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Et c'est vrai que ce travail-là, quand on comprend ce que c'est que l'expérience de la douleur chronique, on comprend aussi à quel point il est important.
Souvent, on fait la distinction entre douleur et souffrance. D'un côté, il y aurait la douleur qui serait d'ordre physique, qui renverrait donc à des affects ressentis comme localisés dans les organes particuliers du corps ou dans le corps tout entier. Et de l'autre côté, il y aurait la souffrance qui recouvrirait donc une signification plus morale et symbolique qui renverrait à des affects ouverts sur la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, au sens et au questionnement. Est-ce que, du coup, ce sont des distinctions que vous faites dans votre pratique ou est-ce que ça reste des distinctions juste philosophiques? Ou est-ce que vous les faites dialoguer?
Pour ma part, je ne fais pas du tout la distinction avec mes patients. C'est une vraie question, hein, souffrance ou douleur corporelle, psychique. Et donc, en recherche, on se la pose aussi, hein, mais... pour ma part, dans ma façon d'appréhender ma pratique au quotidien avec les patients, je ne fais pas de distinction parce que, en réalité, ce que j'observe, c'est que les deux sont liés. Voilà, il n'y a pas de douleur. Enfin, c'est hyper dur d'avoir de la douleur sans souffrance. Ceci dit, c'est vrai qu'il paraît qu'il y en a qui arrivent, hein, mais en tout cas, nous, on travaille à l'articulation de ces deux notions. C'est-à-dire que, oui, à la notion, comme je disais tout à l'heure, somatopsychique, quoi. Donc, pour moi, je ne fais pas de distinction et franchement, dans la pratique quotidienne, je suis plus au cœur des émotions et du travail de donner du sens à l'expérience, justement, que de faire une distinction vraiment concrète avec les patients de douleur et souffrance, même si j'entends bien que ça puisse se faire.
Après, comme dans leur expérience, ce sont deux choses qui cohabitent, c'est peut-être pas nécessaire dans la pratique.
Exactement. C'est tout à fait ça.
Nous, on a pour, dans les centres de la douleur, nous, on prend la personne en charge dans sa globalité. Parce que, et c'est un peu ça, je pense, qui les amène vers un centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Parce que très souvent, ils ont déjà vu des spécialistes qui étaient cantonnés, par exemple, une douleur au genou. Il a vu l'ortho qui s'est occupé du genou, mais qui a pris que le genou en charge et pas la personne dans sa globalité. Et quand ils arrivent chez nous, c'est la personne dans la globalité qu'on prend en charge, tant avec son corps que son esprit. Donc, de distinguer la douleur et la souffrance, ce serait quelque part, je pense, un non-sens au niveau du centre de la douleur. C'est vraiment, oui, une prise en charge globale.
Oui, et je me permets de préciser quand même par rapport à ce que je disais tout à l'heure que parfois, justement, si on voulait trop distinguer souffrance et douleur, ça pourrait apporter un discours culpabilisant pour le patient qui se verrait entendre finalement que la souffrance, c'est une affaire de travail psychique et qu'il pourrait faire avec sa douleur sans souffrance. Or, dans la réalité, c'est extrêmement difficile de dissocier les deux. Je ne vais pas du tout dans cette voie-là avec mes patients.
En plus, c'est très clair, vous venez de le dire, mais dans notre pratique, ça n'a pas de sens de distinguer les deux. Il ressort que la souffrance, dans sa dimension, on va dire, symbolique, elle est partie intégrante de la douleur, si on la regarde sous un angle expérientiel. Et du coup, pour nous, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à forcément dichotomiser ces deux notions, même si bien entendu d'un point de vue philosophique, elles sont deux champs différents aussi, même si elles s'articulent.
Bon, même en philosophie, ils ne sont pas tous d'accord.
Ah, on est rassurés alors.
Oui.
Du coup, ce serait une question plus sur le fonctionnement du service, puisque ben, vous appartenez tous donc, au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Purpan à Toulouse, mais vous avez des spécialités différentes. Du coup, comment est-ce que vous fonctionnez en équipe? Comment est-ce que vous organisez ces différentes spécialités dans le parcours des patients que vous accueillez?
Ce qui va être très important, je pense, dans notre équipe, c'est les temps d'échange. En fait, il va y avoir les temps de consultation avec les patients où on va vraiment faire un recueil de données, un recueil de sentiments, des demandes et des attentes du patient. Et après, on va vraiment avoir un véritable échange entre nous pour voir dans quelle direction on va plutôt diriger la prise en charge, si on va d'abord commencer par traiter le symptôme douleur ou plutôt commencer par un abord psychologique. Oui, de prendre en charge déjà le psychologique va pouvoir débloquer la situation quant à la prise en charge de la douleur qui est plus physique. Après, c'est vraiment l'évaluation au début du patient qui va nous permettre de donner quand même une certaine ligne directrice. Et puis après, certains vont capter ça va être plus être des ressentiments où on va devoir plus les diriger vers une voie que vers une autre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en a parlé au début, le côté pluriprofessionnel déjà compte beaucoup entre l'expertise infirmière, l'expertise psychologique, l'expertise médicale et l'expertise aussi autour de l'activité physique adaptée. Ça, c'est des champs qui s'articulent complètement dans notre parcours hein, au sein de la structure. Après, par exemple, si je prends la dimension médicale, on a aussi le côté pluridisciplinaire qui va intervenir au sens que nous avons différents métiers de la médecine. Anesthésiste, algologue, moi personnellement, je suis médecin généraliste. On va avoir des médecins de médecine physique réadaptation, des rhumatologues, des neurologues, les psychiatres. Et finalement, tout ce champ de spécialité fait qu'en discutant entre nous, il y a aussi la neurochirurgie qui est très impliquée dans notre service. On va vraiment avoir une vision d'ensemble qui permet d'aller vers telle ou telle direction. Et ça, c'est très important parce que ces temps d'échange permettent effectivement de se coordonner ensemble et de travailler en intelligence.
Tu évoquais le fait que parfois, les patients ne s'adressaient pas exactement de la même façon en fonction du type de soignant qu'ils avaient en face d'eux. Et est-ce que justement, cette communication, ça ne vous fait pas découvrir des aspects des patients que vous n'avez pas vus directement, mais que d'autres personnes, vos collègues, eux, ont vus?
Si, d'où l'importance aussi des consultations. Alors, c'est surtout au niveau médical, mais c'est des consultations en binôme, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité à repérer telle ou telle chose. Donc ça permet déjà du point de vue médical d'avoir une certaine harmonie dans la prise en charge, et nous en tant qu'infirmière on le remarque plus facilement, c'est que on va dire que les patients ils ont plus de facilité pas à être naturel, mais à nous dire les choses, parce que ça a moins d'impact, moi je trouve. Ça, ils vont le dire, par exemple, ça je l'ai pas dit au médecin, mais pourquoi vous lui avez pas dit? Mais parce que ça l'intéresse pas. Mais si, justement, ça va l'intéresser. Et c'est au travers de ces temps d'échange qu'on peut, surtout lors de l'hospitalisation de jour, parce que sur la structure, on fait un temps d'hospitalisation de jour sur des demi-journées, et du coup, le patient vient voir trois ou quatre professionnels sur la demi-journée, et au fur et à mesure des interventions de chacun, on peut faire remonter des choses qu'il n'a pas forcément dit à l'un et qu'il a dit à l'autre, et ça permet de faire débloquer certaines choses lors des consultations suivantes.
Donc il y a des temps formels et des temps moins formels, plus informels donc, où on va se retrouver entre les consultations justement des HDJ, des hospitalisations de jour, qui nous permettent de faire le point au fur et à mesure de ces journées-là.
Voilà. Souvent, on parle de la douleur comme d'un phénomène extrêmement subjectif et voire inaccessible, au sens où il n'y aurait que la personne qui souffre qui pourrait véritablement prendre la mesure de l'intensité et de la forme de la douleur qu'elle éprouve. Et cela tranche avec d'autres phénomènes physiologiques qui sont plus facilement observés, examinés, appréciés directement par le soignant ou par les outils qu'il a à sa disposition. Et du coup, dans votre pratique, de quels moyens vous disposez pour apprécier la douleur des patients? Et du coup, j'imagine que la capacité d'écoute, d'attention au comportement, à ce que dit le patient, doit beaucoup entrer en jeu.
Pour répondre à cette question, je vous propose de détailler un peu ce que c'est que le parcours du patient qui souffre de douleurs chroniques. Parce qu'avant d'arriver du coup sur le CETD, les patients vont être amenés à remplir un questionnaire d'orientation qui va être co-écrit, puisqu'il y a une grosse partie qui va être remplie par le patient lui-même, et une partie médicale qui va permettre de faire le lien entre ce qui a déjà été fait d'un point de vue médical par rapport à ces douleurs et les attentes aussi du médecin qui adresse vers la structure. Ce parcours, aujourd'hui, il est important de le rappeler, puisque l'année dernière, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a publié à l'échelle nationale des recommandations pour mettre en place un parcours qui soit le plus cohérent et puis le plus homogène aussi possible sur le territoire. Proposant ainsi à des équipes de soins primaires, donc des médecins généralistes qui travaillent souvent en équipe aujourd'hui hein, dans des maisons de santé ou dans le cadre de CPTS, de s'harmoniser autour de l'évaluation du patient atteint de douleurs chroniques. Et il a été mis à disposition du coup de ces équipes et puis des soignants en général, tout un formulaire avec des recommandations. Et à la fin de ce formulaire, en annexe, les ébauches d'un questionnaire qui peut être adapté, bien entendu, aux pratiques de chacun, mais qui permet de comprendre que ce questionnaire global, puisqu'il évalue plusieurs dimensions de la vie des patients, permet vraiment d'appréhender la situation dans sa complexité, sa globalité, et finalement d'avoir une vision assez holistique de la situation. Donc nous, dans le questionnaire, on a par exemple une partie socio-administrative, tout simplement. Ensuite, une partie sur qu'est-ce que c'est les douleurs dont vous souffrez, est-ce que vous connaissez le diagnostic qui est associé, les prises en charge qui ont pu être proposées jusque-là, est-ce qu'elles ont marché, est-ce qu'elles n'ont pas marché. Et puis, on va évaluer ensuite le retentissement sur le côté anxio-dépressif au travers d'une échelle particulière, le retentissement aussi sur le sommeil, avec souvent des patients qui vont souffrir d'insomnie à cause des douleurs. Et puis, on va évaluer aussi ce sur quoi la douleur va retentir au quotidien. Sur le travail, sur le moral, sur les relations amicales, sur les activités de la vie de tous les jours. Et ces échelles-là, c'est des échelles qui permettent vraiment cette idée d'appréhender la globalité. Donc elles sont importantes.
De mon côté, en fait, nous, les psychologues, on ne s'occupe pas vraiment d'objectiver la douleur. On va vraiment se baser sur juste la reconnaissance du ressenti douloureux. Du coup, on ne va pas s'amuser à le mesurer. Même si ce n'est pas un amusement, on ne va pas chercher à le mesurer en tout cas. On va plutôt s'intéresser à simplement le valider comme expérience unique et voilà, complètement vrai pour lui. Et donc pour nous, c'est vrai aussi, on le prend comme tel. Et on sait déjà que c'est difficile pour les patients de justement d'expliquer la douleur. De la raconter, de la mesurer. Et donc, par cette position d'écoute authentique, ça leur permet vraiment de se sentir un peu plus sécurisés, justement, et de ne pas toujours chercher à mesurer sur une échelle de 0 à 10, par exemple, le ressenti. Voilà.
Après, où on est particulièrement aussi sensibilisé, c'est l'observation qui va être aussi la communication verbale et non verbale du patient. En fait, il va se présenter à nous et puis il va y avoir des petits signes ou des tics ou des choses qu'on est formé et qu'on va être amené à percevoir. Et donc ça fait aussi partie, on le prend en compte dans la prise en charge.
Merci. Alors, j'aimerais revenir sur le fait de prendre en charge des patients sur le long terme. Et est-ce que, du fait de cette temporalité étirée, ça va changer quelque chose dans la relation patient-soignant? Le fait de mieux connaître des patients, de mieux repérer certaines choses?
Ça va tout changer parce que, comme Laura l'expliquait tout à l'heure, les patients qui arrivent sur la structure vont être évalués par une consultation médicale. Et donc, ce premier temps, hein, qui va être souvent un temps d'anamnèse, un temps de relecture hein, du parcours, de compréhension du phénomène, de son retentissement. C'est un moment qui est très important, qui est souvent un moment un peu charnière, parce que le simple fait de pouvoir venir exprimer toute l'histoire et d'avoir le temps de peut-être la raconter différemment, parce que ça fait longtemps hein, qu'ils souffrent pour la plupart, malheureusement. Et finalement, cette prise de recul sur ce temps-là va souvent être le déclencheur déjà de compréhension de certaines choses. Quand on pose la question de qu'est-ce qui vient aggraver la sensation de douleur que vous avez, qu'est-ce que ça vous empêche de faire, qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne fassiez plus, toutes ces questions en fait viennent aussi apporter des premières pierres à reconstruire une manière de faire et une manière d'être différente. Du coup, ce temps long, il joue un rôle fondamental parce qu'en fait, cette première consultation, elle ne va pas être digérée du jour au lendemain. Et peut-être que le temps va toujours jouer en la faveur de mieux comprendre ce qui nous arrive quand on souffre.
Et c'est aussi un moment charnière parce que c'est vraiment le moment où il y a la construction d'une alliance et justement du partenariat avec le patient, je trouve. Et donc c'est un moment à ne pas louper, ça c'est sûr. Et où on fait tous très attention à ce que le patient se sente entendu et en confiance, qu'il puisse se dire, se déposer, et voilà.
Ce qui va se jouer aussi, c'est qu'on va essayer d'identifier les freins. Les freins à la prise en charge qu'on pourrait proposer, parce que si on ne propose pas une approche adaptée au bon moment, elle va très probablement être en échec, c'est-à-dire ne pas réussir à apporter le bénéfice qu'on en attendait, mais tout simplement parce que c'était pas du tout le bon moment. Parce qu'on est en train de vivre, par exemple, une situation de séparation conjugale, parce qu'on vient d'être licencié, parce qu'on vient de perdre un proche. Il y a tout plein d'aléas de la vie, et d'autant plus dans la situation de la douleur chronique qui va souvent générer elle-même des situations très difficiles, tout plein de moments qui ne sont pas propices à proposer des prises en charge spécifiques. Et nous, dans l'écoute qu'on essaie d'avoir sur ces moments-là, on va essayer de discerner si le moment est le bon ou pas. Et c'est parfois d'ailleurs frustrant, probablement, pour certains patients, de venir nous voir en attendant qu'on puisse leur apporter des solutions et finalement de simplement repartir avec le constat qu'effectivement, pour l'instant, c'est pas encore le bon moment.
Mais du coup, on leur laisse la porte ouverte. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau des consultations infirmières. C'est que, dans le cadre de l'utilisation du TENS, donc on leur a présenté la machine, ils ont testé la machine. Ça n'a pas eu l'efficacité escomptée sur leur douleur, mais on lui dit, maintenant, vous savez où on se trouve, vous savez comment venir vers nous. Et c'était peut-être pas le bon moment, mais sachez qu'on sera présent et que si vous jugez nécessaire de revenir vers nous, on sera là et voilà. Donc, on ne leur ferme pas la porte. Ils savent qu'on existe et ils peuvent nous recontacter, nous ressolliciter quand ils auront suffisamment cheminé pour que ce soit le bon moment pour eux.
Donc, tous les moments ne se valent pas, en fait, au moment de la prise en charge. Et ma dernière question, c'est justement, est-ce que vous ne faites pas face parfois à une forme de découragement, du coup, de la part des patients quand ils voient qu'il y a des choses qui ne marchent pas ou que ce n'est pas le bon moment? Comment vous faites pour gérer ce découragement? Et est-ce que vous-même, parfois, vous n'êtes pas dans une situation de découragement?
Ça arrive forcément. Ça arrive forcément et en même temps, c'est aussi le corollaire de prendre en charge des patients qui souffrent de douleurs chroniques, c'est que ce n'est pas linéaire. On ne va pas être dans une perspective à aller de mieux en mieux, toujours un peu mieux. On est plutôt dans, en ce moment, ça va moins bien. Et demain, ça ira peut-être mieux. Et j'espère, en tout cas, que demain, ça ira mieux. Mais du coup, j'ai l'impression qu'avec l'expérience, je ne suis pas sûr qu'on vive tous le sentiment d'échec. Ce d'autant si on a réussi à appréhender la situation sous l'angle d'objectifs personnalisés et justement de cette temporalité. Parce que si on admet que pour l'instant, ça n'est pas encore le moment, que soit la personne n'est pas prête peut-être à entendre ce qu'on essaie de lui expliquer, soit simplement la situation est tellement complexe qu'elle ne laisse pas la place à des perspectives d'amélioration maintenant. Il sera toujours temps, le moment venu, de pouvoir effectivement laisser cette porte ouverte et de laisser le patient revenir vers nous pour un moment plus propice à aller construire autre chose.
Pour le découragement, j'ajouterais simplement que pour les patients, bien sûr, eux sont confrontés à ce sentiment très souvent. Et très souvent, en réalité, ils l'ont déjà avant d'arriver, pour la première fois. Et donc, en tant que psychologue, c'est vrai qu'on va accompagner aussi ce sentiment qui a aussi toute sa place et légitimité. Et donc, on va accompagner à soutenir cela.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle Antoine Hélin, Laura Bonneau, Mathilde Barré et Cyril Planquois. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode.
C'était Elisa Calvé pour le podcast Penser la santé, le podcast du réseau Penser la santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.